deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Nous connaissons dans notre vie deux ou trois moments grands et bouleversants, écrivait Francis Scott Fitzgerald. Ces nouvelles s'articulent autour de ces moments, en mettant en lumière des personnages, comme de brillants météores traversant un ciel étoilé. À l'image de Gatsby le Magnifique, devenu une légende pour la plupart d'entre nous. C'est aussi sur les traces de Fitzgerald que Sylvie Boget, maître d'œuvre des ateliers d'écriture, nous entraîne. Le narrateur de votre nouvelle est en distance par rapport au récit. Le ton est moqueur, désabusé, dépouillé d'émotions, comme de jugement, même si la situation est dramatique. Votre histoire se déroule dans une société faite de contrastes, entre un monde riche, plein de principes, d'idées toutes faites, d'habitudes luxueuses, et un monde misérable, le premier ignorant complètement le second. Ne pas perdre de vue que M. Fitzgerald a aussi la réputation d'être un historien de l'âge du jazz.
Retrouvailles. C'est l'heure des mamans, déclare la maîtresse en voyant les parents s'agglutiner à travers la vitre. Sandrine pose son recueil de chansons sur le bureau pour les accueillir. Il a été très actif aujourd'hui, invente la maîtresse pour faire plaisir à l'un. Tout l'a intéressé, dit-elle à l'autre pour lui rendre le sourire. Entre deux, elle pense à son rendez-vous le lendemain. Elle doit retrouver Patrice Ramy, son amoureux d'enfance, qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans. Un mois auparavant, lors d'un autre remplacement à l'école Joliot-Curie, elle avait remarqué avec étonnement qu'une de ses élèves s'appelait Sandrine Ramy. C'était un nom de famille courant, mais elle n'avait jamais vu de petite fille porter ce prénom parmi ses élèves. Elle n'avait pas pu s'empêcher de penser avec émotion que le père était peut-être son vieil amoureux, qui avait 9 ans à l'époque. Mais c'était la nounou qui était venue chercher la petite fille. Elle avait quand même pu le retrouver sur Facebook. Sa photo ne prêtant nullement à confusion, malgré le passage à l'âge adulte. Le visage fin et hâlé, il était encore très beau avec ses origines indiennes, et le chapeau lui allait bien. Allait-elle le déranger dans sa vie familiale ? Elle aussi avait des enfants, mais elle ne s'en occupait que la moitié du temps, car elle avait divorcé 1 an auparavant. En ce qui la concerne, elle aurait été ravie d'être chamboulée par des retrouvailles. Elle décida de lui envoyer juste un petit coucou par Messenger. « Salut Patrice, je me suis occupée de ta fille aujourd'hui à l'école. Elle est très intéressante pour son âge. Comment vas-tu ?»« Incroyable » avait-il répondu. « Nous qui venons tous les deux du Nord, te retrouver ici, à Aulnay-sous-Bois, c'était inespéré. »« Oui, ma fille nous a dit que la remplaçante s'appelait comme elle. Mais je n'avais pas imaginé que ça pouvait être toi. Sandrine était un prénom si courant à l'époque. »« Je vais bien, mais je suis plutôt débordée. Comme tu vois, j'utilise Facebook uniquement pour militer. Entre mon boulot, mes enfants, quand c'est mon tour de m'en occuper. » Et la préparation de mes conférences, je n'arrête pas. Et toi, comment vas-tu ? Sandrine avait été très émue à la lecture de ce message. Elle comprit aussitôt que ses enfants aussi étaient en garde partagée. C'était effectivement incroyable. Elle répondit à son tour pour parler de ses activités militantes qui lui prenaient aussi beaucoup de temps en plus de son travail. C'était un bon prétexte pour prolonger la discussion. Les jours et les semaines suivantes, elle lui avait envoyé des documents liés au militantisme, se réjouissant de voir qu'il partageait les mêmes idées politiques. Mais elle regrettait d'avoir rempli sa propre vignette photo par celle d'un drapeau militant. Quand il fut question d'une manifestation contre la réforme des retraites, il conclut. « Alors on se retrouvera à la manif. J'imagine que tu auras ton drapeau. » La manif commence à 10 h à République pour se terminer à la Bastille. C'est le cœur battant que Sandrine s'y rend. Elle appréhende le regard de Patrice. La dernière fois qu'il l'avait vue, il déménageait avec ses parents pour rejoindre la capitale et elle n'avait que 8 ans. Ce sera à elle de le reconnaître, car il ne connaît d'elle que le drapeau. Et puis, sera-t-il aussi beau que sur la photo ? Mythique lui avait montré qu'un beau chapeau pouvait révéler un beau crâne chauve. À 9 h 45, une 50aine de militants est déjà en place à papoter, le drapeau sous le bras ou dépassant d'un sac, tandis qu'elle déploie déjà le sien. 10 minutes plus tard, alors que la vague des manifestants s'épaissit, l'excitation de Sandrine grandit. Elle monte sur un plot, espérant voir son vieil ami arriver au loin, d'un côté ou de l'autre de la place. « Salut Sandrine, » dit-on sur sa droite, provoquant un sursaut dans sa poitrine. Fausse joie, ce n'est qu'un ancien collègue qui lui colle toujours au basque. « Salut, » dit-elle, sans prendre la peine de descendre de son plot. Et quelques secondes plus tard, « Sandrine !» Cette fois, elle reconnaît la voix de sa petite élève. Elle la découvre à cheval sur les épaules de son père, à qui elle avait emprunté le chapeau. « Bonjour, ma grande, » répond la maîtresse, quittant son promontoire. Puis, s'adressant au père. « Tu n'as pas tellement changé, » lance-t-elle à son vieil amoureux. Après quelques secondes d'étonnement, Patrice fait descendre sa fille pour faire la bise à sa vieille amie. « Toi, tu as beaucoup changé. Je ne t'aurais pas reconnue sans ma fille, » déclare-t-il. Puis il ajoute, « Mais tu es devenue une belle femme. Tu as l'air en pleine forme. » « Merci, toi aussi, tu es toujours aussi charmant. »« Voilà mon épouse, Isabelle, elle est infirmière, » dit-il, en désignant la jeune femme qui vient de les rejoindre et qui soulève à son tour sa petite fille, rendant son chapeau au papa. Interloquée, Sandrine répond avec quelques secondes de retard. « Ravie de faire votre connaissance, » dit-elle pour cacher sa déception. Texte de Sylvie Pascaud, lu par Sylvie Pascaud.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
De la nuit. Ils étaient tous là, comme chaque premier samedi du mois. Des avocats, des banquiers, des hommes d'affaires, des politiques, des responsables de la police. Tous, de près ou de loin, avaient participé au krach boursier. La prohibition, c'était pour les autres. La pauvreté, une bizarrerie. Dans les salons du Majestic, l'ambiance était déchaînée. Sam Becker, un escogriffe noir aux longs doigts, se jouait des octaves avec un zèle inouï. Lily Jane enchaînait les Charleston et les swings sous le regard amusé de son vieil époux, Gordon, et sous celui admiratif de Sam. Les jeunes gens se précipitaient pour la faire danser. Sam la dévorait des yeux. Il aimait sa robe en mousseline frangée à perles et sequins argentés, dévoilant ses genoux, son bandeau en dentelle avec strass et plumes, et ses sautoirs qui retombaient au bas de son buste. À chaque pas, tous ses artifices entraient en danse dans des balancements incontrôlés qui faisaient tourner la tête du pianiste. Quand il percevait un signe de fatigue, il changeait de tempo et se lançait dans un blues, accompagnée par l'orchestre. Lily Jane s'asseyait alors sous les pales d'un ventilateur, à la recherche d'une brise qu'aucun Mississippi n'aurait pu souffler, tant l'air du Majestic était vicié et les brumes épaisses de la nuit, chargées de haine et de colère. Pendant que les hommes prenaient l'air sur la terrasse, tirant sur de gros cigares, une coupe de champagne à la main, en dessous, un bataillon de négrillons s'affairait dans la chaleur moite et suffocante de l'arrière-cuisine. L'air était saturé de l'odeur âcre de la transpiration et des effluves de Havane. Dehors, la populace contenue par des policiers qui n'hésitaient pas à jouer du bâton grondait. Elle en voulait moins à ces nantis qu'à ces noirs qui leur volaient le travail. La populace avait faim. Les négrillons avaient soif. Une clameur se fit entendre du côté du fleuve. C'était une troupe de danseurs venus tout droit de Hollywood et qui se déhanchait sur le plateau d'un pick-up. Puritaine, la foule était scandalisée devant une telle inopportunité, une telle indécence. Les hommes étaient prêts à en découdre, à ouvrir une brèche, à tout casser. Protégé par les policiers, le pick-up se fraya un chemin et franchit les grilles du Majestic. Lily Jane enviait ces danseurs de boogie-woogie, danse jugée inconvenante par la haute société et délaissée au peuple. Elle battait la mesure du bout des pieds, ce qui n'échappa pas à Sam. Les hommes quittèrent la terrasse pour voir de près ces femmes courtement vêtues. Dans la cuisine, on s'agglutinait aux portes pour découvrir cette dernière danse à la mode, pendant que verres, assiettes et couverts s'empilaient dans l'arrière-cuisine où les corps étaient luisants de sueur. Puis la troupe exécuta un numéro de claquettes et ce fut une salve d'applaudissements. Admirative, Lily Jane croisa le regard de Sam, qui lui sourit. Feignant de chercher son éventail, elle s'approcha de lui. Il lui murmura une adresse où elle pourrait s'initier au boogie-woogie en toute discrétion. Elle regagna sa place, près de son époux. À chaque soirée du Majestic, la foule plus nombreuse se pressait à ses abords. À présent, le personnel dormait sur place, dans des remises reconverties en dortoirs, et les noirs dans les sous-sols. Les uns craignaient d'être agressés, les autres d'être lynchés. Au-dessus, les notables dansaient toujours des charleston et swing et s'enivraient au whisky. Depuis peu, Lily Jane restait sobre, en retrait. Gordon était plus que prévenant, lui apportant limonade et mignardise. Gordon ignorait que les samedis en Majestic, Lily Jane se rendait au Watson, un dancing fréquenté par la middle class et où aucun alcool n'était servi. Elle n'y restait qu'une heure. Sam jouait des boogie-woogie que Lily Jane commençait à maîtriser. En coulisses, il lui apprit les premiers pas du tango argentin qui venait de faire son apparition dans le sud américain. Le rapprochement de leurs corps troublait Lily Jane. Devant sa silhouette qui se transformait, Lily Jane espaça, puis cessa ses escapades au Watson. Par un après-midi de fin d'automne, les premières contractions se firent sentir. Gordon ne quittait plus sa somptueuse villa tant il voulait accueillir ce premier enfant. Un fils, assurément, à qui il transmettrait son nom et sa fortune. Quand après de longues heures de travail, le nourrisson naquit, il eut à peine le temps de pousser un cri. Le médecin le présenta au père, qui pointa son pouce vers le bas et quitta la chambre en claquant la porte. Lily Jane ne vit pas son enfant, qui fut immédiatement emmailloté dans des langes très serrées et confié à la sage-femme. L'enfant sombra dans les flots tumultueux du grand fleuve. Il avait de longs doigts, un nez épaté et une peau légèrement brunâtre. Le soir même, des hommes de Gordon embarquèrent Sam, précédant de peu une foule qui marchait sur le Majestic avec des fourches et des gourdins. Sam comprit ce qui lui arrivait quand la voiture stoppa dans une clairière. Des hommes portant de longues robes blanches et des capuches masquant le visage brandissaient des torches autour d'une grande croix enflammée. Nul ne revit jamais Sam, le pianiste. Quant à Lily Jane, elle fut internée dans une clinique psychiatrique. 5 ans plus tard, le Washington Post publiait à la une « Formidable avancée technologique et médicale. L'éminent neurochirurgien, le professeur Harold Spencer, vient de réaliser avec succès la première lobotomie américaine sur une patiente âgée de 26 ans. » Cette patiente n'était autre que Lily Jane. Texte de Roselyne Tinet, lu par Anaïque Frappard.
Elisabeth de Villedon. Hortense, d'humeur rieuse, virevoltait dans la maison. Elle allait enfin étrenner son merveilleux panier pique-nique en osier acheté au jardin de la comtesse. « Si élégant, mon cher Hubert, avec cet adorable tissu Vichy rouge, et tu pourras emporter ton vin avec ses casiers à bouteilles. Le compartiment isotherme est une merveille, et le rangement des couverts en argent et des verres en cristal, une trouvaille. » À petits pas menus, mais toujours gracieux, Hortense enfila sa tenue plage très tendance. Un bermuda en coton mimosa et son t-shirt assorti, un foulard fleuri jaune, noué dans les cheveux pour les protéger du sable, répétait-elle sans se rendre compte qu'elle était au bord du radotage, et moi de l'implosion. « Hubert, n'oublie pas de mettre ton polo Ralph. Il s'agit de faire une chic impression si nous rencontrons nos voisins du cottage. » Emporte aussi, mon chéri, ma crème solaire anti-rides, protection 50 pour mon visage, essentielle sur la plage. Ah, aussi les 2 transats et le parasol à rayures. Il faut toujours montrer notre goût. Allez, magne-toi le train. Ma chère épouse encanaillait parfois son vocabulaire pour faire peuple. J'apporte les toasts, le foie gras, le poulet froid et le cake salé fabriqué par notre bonne, reprit-elle. Pense à ton maillot de bain rose, très mode. Je sais que tu le détestes. Mais le rose n'est plus le signe de ralliement des personnes gays. Enfin, tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu sais, un peu comme ce voisin, toujours élégant, mais un peu efféminé. Dieu merci, on ne peut te confondre avec ton côté viril de chasseur et ton air de rapace. Sur le retour, il faut bien le dire. Moi, je la regardais avec son nez épervier et son cou fripé comme celui d'un dindon. Seuls les yeux survivaient à sa beauté d'antan que je contemplais avec regret. Et Hortense jacassait avec quelques notes suraiguës qui me vrillaient les oreilles. Enfin arrivée sur notre petit coin de plage quasi privé, Hortense étala une grande nappe Vichy rouge assortie au panier et exposa notre repas avec une vanité non dissimulée. Elle me demanda de déboucher le champagne et nous trinquâmes. À quoi? Je n'en sais trop rien. À notre couple qui s'essouffle, à nos lingots d'or amassés grâce à mes livres, à cette vie un peu vide de sens, mais qui ravissait mon épouse dans un perpétuel babillage. Soudain, surgirent dans notre espace un groupe de jeunes débraillés, aux vêtements lâches, avec des bandanas pour retenir leurs cheveux fous et, un peu éméchés, des canettes de bière plein les bras. À leur vue, Hortense soupira d'un air dépité, car l'odeur de charcutaille nous envahit soudain, et les gros rires et concours de rots rompirent l'harmonie du moment. Une jeune fille aux longs cheveux dorés se mit à danser dans le soleil, langoureusement, au son d'un harmonica qui me rappelait les airs de Bob Dylan au temps de mes premiers émois. Captivée, je ne lâchais pas des yeux cette plus fraîche composition que mon Hortense, hélas un peu fanée malgré ses louables efforts. Madame continuait son bavardage sur les potins de la ville pour ramener mon attention sur elle. Son rouge à lèvres débordait. Une moustache brune se dessinait au-dessus de sa lèvre après avoir bu du vin rouge. Le foie gras avait fondu à la chaleur et je regardais le naufrage de cette nourriture ramollie par le soleil. J'arborais alors une moue dégoûtée pour ternir son bel enthousiasme. Mais Hortense ne me voyait plus depuis belle lurette. Je faisais juste bien dans son paysage. La mer se soulevait en énormes vagues vertes et éclatait presque à nos pieds, dans un fort rugissement. Heureusement, à marée descendante, nous ne pouvions craindre une vague plus audacieuse que les autres qui aurait détruit d'un seul coup le bel agencement de notre pique-nique. Elle parlait fort, riait à tout vent, de tout, de la vie, de mes mines abattues, de ma jalousie. Alors, au milieu des vagues et loin du bord, j'ai serré son petit cou, blanc comme un cygne, serré. Puis, pour ne plus l'entendre, je l'ai longtemps maintenu sous l'eau. Curieusement, elle faisait des bulles et tentait d'agripper mes mains. L'enquête a conclu à une noyade par accident et je retrouvais enfin la sérénité. Elle n'appartiendrait plus à personne. Je revins à moi, Hortense pérorait toujours. « Chérie, tu as pris trop de soleil, mais ton chapeau blanc cassé qui fait très classe. » Je fixais alors son petit cou blanc, tout blanc, cette gorge bavarde, prolixe de mots inutiles, de mots aigres parfois, et j'eus envie de serrer cette palpitation. Je le fis en rêve, il y avait trop de témoins. Un jour peut-être, ou plutôt une nuit, avec un oreiller, sans trace de lutte. Ce sera un arrêt cardiaque.
Une partie de chasse. Lorsque Gabriella entra dans le petit salon, monsieur de Joinville et madame buvaient un champagne tiédi par leur mésentente. Monsieur, feignant de dédaigner la domestique, trempa une serviette dans sa coupe et en humecta le museau du petit teckel qu'il tenait sur les genoux, afin que l'animal puisse partager les futilités mondaines de ses maîtres. Madame leva un air interrogateur vers la gouvernante, qui répondit que les invités commençaient à arriver et qu'elle prenait en charge leur domesticité. Monsieur et madame avaient en effet convié quelques amis chers à une partie de chasse pour le lendemain. Une tradition destinée à rompre l'ennui quotidien du vieux manoir, illusoire, mais à laquelle personne ne songeait à déroger. Madame se leva pour aller saluer ses hôtes et donna des instructions pour que l'on serve le thé sous la véranda. Ce n'était qu'une réception intime, une douzaine de personnes, mais dans le respect d'un protocole qui ne souffrait aucune fantaisie. Monsieur rappela la gouvernante et la pria de prendre un instant le teckel dans ses bras, le temps qu'il se lève de son fauteuil, puis reprit le chien contre lui. Apercevant quelques poils que l'animal avait laissés sur la tenue de la domestique, il pelota les seins de cette dernière en s'excusant que son chien ait taché son chemisier. Quelques heures plus tard, chacun ayant pris ses quartiers, les invités à l'étage, les domestiques sous les combles, la gouvernante vint annoncer à madame que le repas était servi et tout ce petit monde se dirigea vers la salle à manger. Le couvert avait été dressé à la russe, eut égard à la vieille baronne qui se vantait d'avoir eu, autrefois, des accointances avec le tsar. Lorsqu'elle apprit que madame de Castignac était venue sans sa camériste, elle en conclut que celle-ci n'avait aucun amour-propre. Elle ne put se départir d'une remarque, d'où il ressortait qu'elle allait lui montrer qu'elle, au moins, malgré ses 74 ans, savait se tenir en société. Le dîner fut néanmoins chaleureux. Chacun évoquant des souvenirs anciens, des anecdotes futiles ou des ragots polissons, lesquels recevaient l'absolution bienveillante de Monseigneur de Clémecy. On ne saurait trop négliger de se mettre sous la protection du clergé, surtout si celui-ci est de sang bleu. Au demeurant, Monseigneur était un convive empli de componction, fin gourmet et tolérant envers les mœurs de ses hôtes. La soirée se poursuivit pour ces dames et le prélat au salon où leur furent servies des liqueurs, au fumoir pour ces messieurs qui purent enfin aborder des choses sérieuses. Monsieur de Joinville insista pour que Gabriella vînt elle-même offrir cigares et eau-de-vie. Quand elle ressortit, il lui effleura les fesses en la priant de le rejoindre dans sa chambre à la fin de son service. Le teckel, remuant joyeusement sa queue, aboya en fixant Gabriella. On plaisanta sur la virilité gaillarde de monsieur, et entre deux bouffées de partagas, celui-ci interrogea son voisin sur ses affaires, celle-ci lui paraissant florissante. Le gros homme répondit qu'il ne faisait que rendre service à l'État, en fournissant à l'armée les chaussures dont les fantassins faisaient usage. Et ce n'était pas sa faute si la marche usait les semelles et si l'armée en consommait tant. Mais il concéda, en souriant, qu'il possédait là un monopole agréablement rentable. Monsieur de Cubières aimerait bien t'en faire autant avec ses gamelles en aluminium, mais n'avait pour l'instant aucune entrée au ministère des armées. Si l'on pouvait l'introduire, il saurait certainement se montrer reconnaissant. Une chaleureuse poignée de main conclut une nouvelle complicité entre deux hommes du monde. La nuit fut courte, polissonne pour M. de Joinville, qui se réveilla d'excellente humeur. Après un déjeuner roboratif, on fit sortir les épagneuls et tout le monde se mit en route pour la chasse. La matinée s'étirait maussade. Chacun prit son affût, et la pétarade déclencha une curée d'autant plus indécente qu'elle serait bien supérieure aux besoins alimentaires de notre belle aristocratie. Monsieur eut la main légèrement excoriée en rechargeant son fusil et demanda au retour à Gabriella de venir le soigner d'urgence, ce que celle-ci s'empressa de faire. Son poste de gouvernante passait par la soumission inconditionnelle au désidérata de monsieur. Cet incident n'échappa pas à madame, qui fit remarquer à voix haute à son mari que décidément trop c'était trop, et qu'elle n'était pas dupe de la relation que celui-ci entretenait avec la domestique. La gouvernante répondit du tac au tac qu'elle ne faisait qu'obéir à monsieur, et, réalisant ce qu'elle venait d'avouer, rendit sur le champ son tablier. Monsieur en profita pour filer à l'anglaise. La semaine suivante, le manoir ayant retrouvé sa morne langueur, endeuillé par le départ de la gouvernante, madame, par le truchement de son notaire, fit savoir à son cher époux que, sans demander le divorce, ce qui eût été inconvenant, elle songeait à déposséder son mari de la fortune qu'elle avait apportée en dot 33 années plus tôt, et à se débarrasser accessoirement de cet insolent complice qu'était à ses yeux le petit teckel. Un texte de Bernard Sieller, lu par lui-même.